Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC à la radio, RMC Story, canal 23 de la TNT. C'est un bonheur d'être avec vous tous les jours jusqu'à 15h et tous les jours avec Rémi Barré notamment. Salut Rémi.
Salut Estelle, bonjour à tous.
On va parler un petit peu de foot avec Daniel Riolo aujourd'hui dans l'émission. Salut Daniel.
Ah, faut que j'intervienne uniquement quand on
parle. Non, c'est ce que j'ai dit.
Comme tu l'as présenté, j'ai un doute.
De foot, mais pas que, tu vois.
Bon, alors je peux dire bonjour alors.
Le foot, c'est à 14h.
Bonjour tout le monde.
Donc, tu peux parler d'autre chose avant.
D'accord.
Pas de problème. Mmh. On est avec notre militante associative, Anne-Sophie Saint-Père. Salut Anne-Sophie.
Salut. Bon, bah, j'espère que j'aurai pas trop à parler de foot non plus.
Bah, jusqu'à 14h, non. Puis à 14h, faudra quand même vous y mettre. Et ça tombe bien parce qu'il adore le foot, lui aussi, Benjamin Muller.
Bonjour,
salut Benjamin.
Et en plus, hier soir, j'ai été malin. Pourquoi? J'ai écouté l'after, j'ai écouté Daniel et j'ai prévu de dire exactement tout ce qu'il a dit hier.
Bon, mais il peut changer d'avis, vous savez.
Je sais. Donc, on débattra. Il débattra avec lui-même en débattant avec moi.
Non, mais s'il vient pour répéter.
Il est très bon quand il débat avec lui-même.
Ah, c'est vrai.
Bon. C'est comme ça qu'il débat le mieux.
Mais il n'est jamais d'accord avec lui-même.
Oui, exactement.
Jamais.
Allez, au sommaire aujourd'hui, dans Estelle Midi, le jeudi noir, dans les transports, notamment le métro parisien, une situation qui se répète chaque année, voire chaque mois. Est-ce qu'il faut apprendre à vivre avec les grèves? On vous attend au 32-16, à midi et demi, l'ouverture d'un restaurant atypique. Ce restaurant est situé au sein de la prison des Baumettes à Marseille, avec des détenus au service et en cuisine. Seriez-vous prêt à aller déjeuner dans une prison? À 13h, les allocations chômage supprimées en cas de refus de deux CDI. Pour vous, est-ce que c'est logique ou injuste? Vous réagissez sur l'application RMC. 13h30, le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. On parlera des sites d'achat groupés sur Internet. Est-ce que c'est un bon plan ou une arnaque? Et puis à 14h, la liste de Deschamps pour le Mondial hier avec zéro surprise. À 10 jours de la Coupe du Monde, cette équipe de France vous emballe-t-elle? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. Et puis Rémi, on ouvrira peut-être le coffre RMC. Hier, on a fait gagner la totale Coupe du Monde.
Oui, parce qu'à quelques jours, effectivement, du début de la Coupe du Monde, RMC vous offre le meilleur équipement high-tech grâce au coffre RMC. Vous vous inscrivez tout de suite en envoyant coffre par SMS au 73216. Si vous êtes sélectionné, vous repartirez soit avec un iPad, soit avec une enceinte Marshall Woburn. Et à ce moment-là, soit vous gardez ce cadeau, soit vous choisissez de l'abandonner, mais vous pouvez alors ouvrir le coffre RMC avec à l'intérieur soit des AirPods, soit la totale Coupe du Monde avec une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox Series S, un four à mini pizza et un mini bar. Bah, regardez tranquillement les matchs. Alors, est-ce que vous oserez ouvrir le coffre RMC pour vous inscrire? Donc, vous envoyez coffre par SMS au 73216. Coffre par SMS au 73216.
RMC Estelle Midi.
Et on démarre tout de suite Estelle Midi avec l'actualité du jour. Et c'est ce jeudi noir dans les transports, notamment parisiens, et cette menace de grève illimitée de la part de l'UNSA. Grosse galère donc pour les usagers des transports en commun. Mais en même temps, Rémi, on peut dire qu'on commence à s'y faire. Quoi.
Oui, et pour cause, la France serait tout bonnement championne européenne de la grève.
Mais non.
Si, si, c'est ce que dit une récente étude allemande de la fondation Hans Böckler. Selon elle, en France donc, Daniel, on recense en moyenne 114 jours de grève par an pour 1000 salariés. 114 jours de grève.
0,1 jour.
Ouais, c'est 18 en Allemagne. 114 en France, 18 en Allemagne et seulement 1 en Suisse. Des comparaisons à relativiser puisque tous les pays n'utilisent pas les mêmes méthodologies. Mais il y a bien une culture de la grève plus forte en France qu'ailleurs. Pour preuve, à la SNCF, la direction des ressources humaines de l'entreprise a établi un relevé des journées de travail perdues par agent à cause des mouvements sociaux ayant affecté l'entreprise entre 1947 et 2018. Au-delà de cette date, les archives sont incomplètes. Oui. Il en ressort que l'entreprise n'a jamais connu une seule année sans grève depuis plus de 70 ans. Une culture de la grève qui va parfois très loin. Le Figaro a ainsi révélé hier qu'à la RATP, 50 à 60 salariés sont en grève depuis 5 à 6 ans. Si, si, c'est légal. Hein. Pour ne plus travailler, ces salariés s'abritent en fait derrière un préavis de grève illimité déposé par certains syndicats. Alors, ils ne sont plus payés depuis longtemps.
Il manquerait plus que ça.
Mais ils bénéficient toujours de la mutuelle des œuvres sociales de l'entreprise.
Alors, faut-il apprendre à vivre avec les grèves, puisqu'il y en a tout le temps? Je vais commencer avec vous, Benjamin Muller.
Alors, déjà, la bonne nouvelle, c'est dans le journal de Jamila, on vient de l'entendre, c'est que j'ai l'impression qu'on apprend. on le subit, mais on apprend à vivre.
Il n'y a personne sur les quais.
En fait, il n'y a personne sur les quais. On s'organise avec le télétravail. C'est quand même l'une des bonnes nouvelles du Covid. C'est qu'on a, il y a quand même plein de boîtes où on a appris qu'on pouvait se débrouiller sans aller au travail. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de gens qui réussissent à s'organiser. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Parce qu'il y a plein de métiers où on est quand même obligé d'aller bosser. Il y a quand même plein de gens. Là aussi, dans le journal, on entendait ce pauvre monsieur là qui partait à 5 heures, etc. Moi, je trouve que ça arrive juste après tout le bordel qu'on a eu sur l'essence. Et j'ai le souvenir d'une dame qui avait appelé la dernière fois que j'étais ici sur l'essence. Je pense que vous en souvenez aussi. Elle avait appelé pour dire qu'en gros, elle était divorcée du papa qui gardait ses deux filles à 200 km. Et comme elle n'avait pas d'essence, ça faisait donc 3 semaines qu'elle n'était pas allée voir ses enfants. Et donc là, je me mets à la place de cette même dame si la chose arrivait. En fait, il y a des situations très concrètes qui sont insupportable en fait. Si moi j'ai un petit peu de difficulté pour venir à RMC aujourd'hui parce que c'est la grève, c'est pas grave, mais en fait il y a énormément de gens pour qui c'est insupportable. Donc est-ce qu'on doit continuer de s'habituer à vivre avec ? Moi je comprends pas. Je pense qu'il y a des choses. Sarkozy en 2007 avait lancé une loi sur le service minimum. Vous vous souvenez de sa phrase ?
Oui, mais ça ne marche pas. Donc
En fait, c'est pas que ça marche pas, c'est que ça n'existe pas.
Mais c'est infaisable.
C'est pas un service minimum.
Non,
parce que
ça n'est pas accepté.
Si 100% des gens font
c'est
grève,
c'est pas possible en fait.
Il n'y a pas de réquisition du personnel.
Et donc c'est anticonstitutionnel. Donc en fait, c'est bullshit. Donc je pense qu'il faudrait quand même, une fois, s'y poser vraiment, je sais que c'est régulièrement proposé, notamment par la droite. C'est dommage qu'on n'en parle pas un peu plus souvent.
Mais à Sophie Saint-Père, on a l'impression, effectivement, en regardant les JT un peu sur toutes les chaînes info, que les gens se sont adaptés, finalement. Avant, vous vous souvenez, il y a 10 ans, dès qu'il y avait une grève, tout le monde hurlait, il y avait des bagarres sur les quais des gares, etc. Alors là, on a l'impression que tout le monde s'en fout. Finalement, bah ouais, on apprend à vivre avec. Mais est-ce que c'est pas embêtant, ça, pour les syndicats, justement? Parce qu'ils ont plus de levier. Parce qu'avant, ils embêtaient les gens. Donc finalement, la direction cédait. Mais s'ils embêtent plus personne, bah, il y a plus de soucis.
Ouais, alors moi, je relativiserais sur le fait qu'ils embêtent plus personne. Non, c'est quand même super galère. Je pense que je vais me faire une heure de marche en fin de journée. Non, c'est très très galère la grève des transports et ça montre qu'on a besoin de ces transports publics. Et moi à chaque fois quand il y a des grèves, je regarde pourquoi il y a des grèves, parce que ça c'est intéressant. Alors certes il y a des grèves là, en l'occurrence il y a des revendications salariales.
C'est un peu toujours la même chose.
Ben non, là c'est aussi beaucoup sur les conditions de travail à la RATP et c'est assez intéressant. En fait, il se trouve que j'ai un ami qui était conducteur de bus qui a démissionné assez récemment. Ça fait des mois qu'on entend parler de la dégradation des conditions de travail parce que les bus, enfin la RATP se prépare à la privatisation, donc ça veut dire qu'il va falloir être plus rentable. Donc sur quoi ils vont rogner ? Sur la masse salariale, mais aussi sur les coûts de maintenance, les coûts d'entretien. Donc on se retrouve avec du matériel
de mauvaise
qualité.
Le temps de travail aussi, on peut bosser un peu plus.
Des pertes de primes. Là aujourd'hui, il y a des amplitudes horaires qui peuvent aller jusqu'à 13 heures. Ils ont généralisé le service en deux fois. C'est hyper compliqué d'organiser sa vie.
Ils terminent très tard. Non, c'est des conditions qui sont pas faciles.
C'est des conditions qui sont dures. En plus, il y a des enjeux de sécurité. Ils conduisent des engins dans lesquels on est. Et le fait que la grève elle soit pénible, ça montre que ce service, on en a besoin. Il y a eu un rapport en juillet 2021 de Philippe Alston, qui est un ancien rapporteur spécial des Nations Unies, qui évaluait l'effet de la privatisation des bus au Royaume-Uni.
Mais d'accord, mais là c'est pas le sujet en fait.
Bah si, c'est le sujet, parce que c'est le sujet de la grève, c'est toutes les réformes qui ont lieu à cause de la privatisation.
Mais là ça c'est aujourd'hui, mais d'habitude les grèves, enfin je veux dire, il y en a pour les conditions de travail, pour la hausse des salaires. Là c'est toutes les grèves. Là effectivement, celle de la RATP, on est tous d'accord pour dire que effectivement un conducteur de bus ou de métro, ça gagne pas assez. Voilà, là-dessus, il y a pas de souci. Mais c'est sans arrêt en fait. Et les négos, elles ont démarré lundi en fait.
C'est pas que ça. Alors non, parce qu'il y avait déjà eu une grève en octobre et ça, il y a pas de nouvelles de la direction depuis un mois. Et par ailleurs, l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de ce service public ? Parce que là, il y a eu des démissions massives. On le voit même avant la grève. En fait, il y a un service qui est dégradé à Paris parce qu'il y a plus assez de conducteurs. Et la privatisation au Royaume-Uni, ça a fait perdre l'accès au droit, à l'éducation.
Mais c'est un autre sujet. Un truc très précis sur la RATP, mais en vrai les grèves ça pénalise tout le monde. Là c'est parce que c'est les métros parisiens, mais la plupart du temps c'est la SNCF,
regardez,
c'est tout le monde. Là tu prends
grèves,
un truc précis, mais les grèves ça impacte tout le monde au quotidien. C'est pas que la RATP.
Oui, et si ça impacte tout le monde, ça montre que le service il est important et que le service il doit être préservé. Et c'est là-dessus qu'on devrait se battre. En fait c'est extrêmement important. D'autant plus qu'on est à une période où on dit on va réduire le poids de la voiture pour des questions climatiques, etc. Évidemment je le soutiens. Si on n'a pas un service public des transports de qualité, ça ne marchera pas. Donc se concentrer simplement sur les effets de la grève, ça a pas d'intérêt. Il faut regarder.
Mais si, parce que là la question c'est est-ce qu'il faut apprendre à vivre avec, c'est-à-dire que avant
non ça, il faut résoudre les conditions de la grève. Pourquoi est-ce qu'il y a des grèves? Il y a des raisons et ces raisons
quand tu dois prendre ta voiture à 5h du mat parce que ton métro marche pas ou ton train marche pas, autant te dire que comment faire pour ne plus être en grève, c'est pas
les gens qui subissent.
Je suis une personne qui subit et le fait de le subir me rend très consciente à quel point c'est important d'avoir un service public des transports de qualité. Et aujourd'hui, les agents, ils se battent aussi pour ça.
Daniel Riolo,
je comprends ton message.
Oui, moi aussi.
Je comprends ce que tu veux dire, mais sauf que ce message, il ne passe plus.
J'entends bien qu'eux disent oui, mais c'est parce qu'on doit préserver notre service. Donc, cher usager qui souffrait, qui est en train de galérer, quelque part, c'est pour vous qu'on fait ça, parce que sinon, le service va se dégrader. Si en plus, on va vers une privatisation, ça va être encore pire pour vous. Vous allez galérer encore plus. Sauf que le message, il est un peu noyé, parce que d'abord, on ne l'entend pas. Je pense qu'aujourd'hui, si tu te balades sur les quais ou dans la rue.
C'est pour ça que je répète, d'ailleurs.
Oui, tu as bien fait.
Oui, mais est-ce que, le problème, c'est est-ce que, alors que là, c'est encore public, ça fonctionne réellement très bien. Si tu répètes les grèves, déjà, ça fait que c'est un service qui est dégradé. Donc en fait, tu le dégrades parce que tu as peur qu'il se dégrade encore plus, mais il est quand même dégradé. Tu vois, ça, on tourne un petit peu en rond. Et est-ce que ça marche réellement bien ? Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, les rames sont trop pleines, il n'y a pas assez de rames par rapport au nombre d'usagers puisqu'on empêche les gens de prendre la voiture, des problématiques que tu as évoquées. Donc, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu veux dire, mais dans les faits, ce qui ressort à chaque fois, c'est une répétition. Alors, pour répondre à la question d'Estelle, moi, j'étais même étonné de la question. Quand je l'ai reçue, j'ai dit, évidemment qu'on est habitué. C'est l'impression qu'on a même un centre de formation pour sortir de grève.
Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est ça qui n'est pas normal.
Parce que les réflexes, on les a. D'ailleurs, il y a en tout cas moins d'embouteillages qu'à une époque parce que les gens sont organisés. Plus maintenant, le télétravail est devenu un petit peu plus un petit peu plus courant.
Mais dans Paris, il y en avait même moins que d'habitude. Moi, j'ai trouvé aujourd'hui.
Si, il y avait moins.
Oui, c'est ça. Il y a aussi des gens qui ont fait le pont.
Mais parce qu'on s'organise.
Mercredi soir, exactement. Jeudi soir.
Donc les gens s'organisent. Donc finalement, le message ne passe plus trop. Les gens. Ils sont habitués à tel point qu'ils ont tout de suite prévu des parades, donc ils s'organisent. Qu'est-ce qu'ils vont en ressortir ? Ils vont ressortir, ok, il y a eu une journée de galère, mais bon, allez hop, on est habitué. Donc pour répondre à la question, on est normalement habitué qu'au fond, on s'en fout un peu.
Et en plus, on n'a même
pas reçu le message qui est toujours adressé par la CGT principalement, qui n'a pas la cote dans l'opinion, qui est un syndicat très dur et qui n'est pas tellement connu pour discuter, c'est notre vieille tradition qui n'existe qu'en France, cette tendance soviétique qui n'existe pas dans les autres pays. Attends, pourquoi tu souris, c'est vrai ?
Parce que je souris, parce que j'ai envie.
Non mais c'est vrai, on est le seul pays qui a gardé cette espèce de frange un petit peu soviétique qu'on retrouve dans certains partis politiques et à la CGT. Donc finalement, le message en plus, il est noyé, alors qu'il aurait mérite d'être un peu entendu avec, comme tu disais, si c'est privatisé, il va se passer ça. Dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, ça se passe comme ça. Et au moins, les gens, tu vois, pourraient se positionner. Là, ils se positionnent que d'un côté, vous nous faites chier. Voilà.
Oui, et parce que le problème aussi, c'est que le message, il est noyé, puisqu'il y a tellement de grèves qu'en fait, le problème, c'est qu'on ne sait plus. Et même si tu savais pourquoi ils faisaient grève, en fait, aujourd'hui, tu t'intéresses à elle, tu dis, oh, ils font encore grève.
Il en ressort à la fin ce que je viens de dire. Ils sont relous, eux.
Mais du coup, ça affaiblit les syndicats, puisqu'on s'en rend plus compte. Donc,
exactement.
On est avec Raph, qui nous appelle de Mâcon et qui est conducteur de convoi exceptionnel. Bonjour, Raph.
Ouais, salut tout le monde.
Eh ben merci d'être avec nous sur RMC, Raph.
J'attendais de passer justement, parce qu'alors là, il y a de quoi rouspéter quand même.
Eh ben allez-y, Raph. Poussez votre coup de gueule, profitez-en. Ouais.
Non, parce que les grèves, bon, je suis entièrement d'accord, en France, on a le droit de grève, c'est ce qu'il faut faire quand on n'est pas content. Mais au bout d'un moment, bloquer tout le monde, pour vraiment faire chier et bloquer tout le monde, il y en a un peu ras-le-bol.
Mais on vous dit que c'est pour vous, Raph.
Ben c'est pour nous, mais c'est bien que ce soit pour nous, mais c'est pour nous emmerder ou c'est pour nous, pour vraiment aider les gens? Il y a des choses qui ont avancé dans les années précédentes. On entend, les congés payés, les choses comme ça. Mais au bout d'un moment,
c'est
quand même un petit peu qu'on avance. Là, la vraie question que vous avez posée tout à l'heure, c'était est-ce que c'est la population qui doit s'adapter aux grèves? Moi, je dirais plutôt que c'est quand même un peu au service public de faire ce qui est d'ailleurs le service public et de s'adapter à certaines circonstances. C'est pas à nous de pas trouver de moyens d'aller au travail. C'est pas à nous de pas trouver les moyens pour profiter de ce que nous, on paye avec nos impôts. Ils sont payés avec leur salaire, c'est nos impôts. On paye pour avoir une prestation, on va dire, avec la RATP, des bus, tout ça. Et on n'y a pas parce que ces gens, ils font grève et puis parce qu'ils décident de tout bloquer. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait « Ah ben moi, je fais pas grève parce qu'aujourd'hui, c'est mon jour de repos. » Bah, si t'as une conviction, mec, si t'es pas d'accord avec ce qui se passe, c'est tous les jours, c'est pas que quand tu travailles.
Non mais je suis d'accord, mais après ils font pas grève comme ça pour s'amuser, c'est parce qu'ils ont des raisons de faire grève. D'ailleurs on le voit beaucoup dans les transports parisiens où les conditions sont dégradées, c'est-à-dire qu'avant vous aviez une rame toutes les 2 ou 3 minutes et maintenant quand vous en avez une toutes les 9 minutes, franchement vous remerciez le bon Dieu quoi. Donc voilà, les conditions elles sont dégradées et effectivement on peut comprendre qu'ils fassent grève, et c'est quand même un droit, Raph.
Et si je peux ajouter, à la RATP, quand on commence aujourd'hui un jeune, il commence avec en moyenne 1300 euros par mois,
ce qui est très faible.
Ce qui est très faible vu la responsabilité qu'elle a leur, vu les horaires, etc. Et puis ce sont des gens qui habitent à Paris ou pas loin. Et avec 1 300 euros, je veux dire, si on est marié, qu'on a des enfants, c'est mort, on se lâche pas.
Pas n'importe quel poste. Oui, c'est ça. On parle pas de conducteur.
Non, je parle des premiers postes d'embauche. Des jeunes qui ont 25 ans.
Non, mais tous les jeunes ne commencent pas à la RATP à 1300 euros.
Eh ben, enfin, il y a toute une catégorie de ces gens-là, ceux qui font grève aujourd'hui en masse. Et je veux dire, ouais, on peut aussi se mettre à leur place 2 secondes.
Ouais, c'est pas le patron de la RATP qui fait grève. C'est tous ceux qui se lèvent à 5 heures et qui doivent habiter à 1 heure de Paris parce que les loyers sont trop chers.
Ça s'entend aussi. Mais, je veux dire, une fois qu'on a dit qu'ils nous emmerdaient en faisant grève, on peut aussi entendre ce qu'ils disent.
C'est important ce que tu dis, Estelle, parce que là, la mobilisation d'aujourd'hui, c'est pas uniquement sur les salaires, c'est également sur les conditions de travail. Et c'est vrai que se joint à ce mouvement de grève une pénurie actuellement. Il manque 100 conducteurs de métro et on a eu des témoignages de conducteurs de bus et de
conducteurs
métro.
Conducteurs de bus aussi,
ouais. Oui, qui travaillent dans des conditions très pénibles.
Et bien justement, on a Sandrine, qui est conductrice de bus et qui nous appelle de Charny, en Seine-et-Marne. Bonjour Sandrine.
Bonjour Estelle, bonjour et bonjour à tous.
Et merci Sandrine d'être avec nous. Vous êtes conductrice de bus depuis combien de temps?
Ah, je suis dans ma 17e année là.
Ah oui, quand même. Donc, oui. Et vous êtes heureuse finalement?
Bah écoutez, la seule chose qui me motive encore d'aller aujourd'hui, c'est que j'aime mon métier. Hein. Après, on s'adapte. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous avouerai, au bout de tant d'années, l'adaptation, elle commence à être un petit peu difficile. On n'a pas des conditions très appropriées. Et c'est le salaire ne suit pas. Et au temps actuel d'aujourd'hui, c'est pas très convenable, quoi. Après, pour revenir à la question d'aujourd'hui, est-ce qu'on doit vivre avec? Moi, j'ai plus un avis mitigé. Le premier, c'est oui, on va devoir vivre avec parce que, en l'état actuel, vu là aujourd'hui les conditions de travail et le salaire, il ne faut pas oublier que bientôt, on reparlera des retraites. Donc oui, les gens vont devoir vivre avec. Et après, je vous dirais, la bonne question à se poser, est-ce normal de devoir vivre avec ça? C'est là
où la question
se pose, c'est pas normal. Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où toutes les portes se ferment, personne ne veut écouter personne, personne ne veut être d'accord sur peu importe le point, et s'accorder pour que les choses avancent et qu'on avance. On est quand même en 2022, excusez-moi, j'ai l'impression de régresser, hein. On n'a pas les écoutes. Nous, notre régie, j'ai l'impression on a vraiment face à un mur. Et on est obligé aujourd'hui. Alors certes, ça embête les gens. Je peux comprendre que c'est très embêtant pour les gens. Il faut savoir que même sans grève, c'est embêtant pour eux parce que le manque de chauffeurs fait qu'on est en manque de moyens de transporter les gens. Et je peux vous dire, les gens, ils attendent 40 minutes, une heure. Et on a beau être dans la compassion, mais on est démunis. On ne peut rien faire pour améliorer leur transport. Donc aujourd'hui, cette grève, elle est utile parce que on dénonce nos conditions de travail, qui est depuis un bon moment qu'on les dénonce, mais apparemment on n'a pas l'air de nous écouter. Ouais.
Mais c'est quoi alors ces conditions de travail, Sandrine, pour qu'on comprenne bien?
Écoutez, vous savez, depuis le 1er juillet de cette année, on a augmenté notre temps de travail d'une heure de plus. Et qu'il faut savoir qu'il me semble, si je ne me trompe pas, on n'est même pas à 25 euros de l'heure ajoutée en brut. Vous voyez,
mais quand vous dites on rajoute une heure, ça veut dire que vous bossez combien d'heures par jour ou par semaine?
Nous étions en base à 6h38 de moyenne journalière, nous sommes passés à 7h34.
D'accord.
Et apparemment,
vous êtes à plus de 35 heures, vous êtes à 37 heures, quoi.
Voilà, on a réaugmenté parce qu'apparemment on devait du temps, que selon les conditions européennes. Et là, aujourd'hui, ils essayent de rattraper. Pourquoi? Parce que l'ouverture de marché se fait bientôt. Donc, il faut qu'on mette les pendules à l'heure et qu'on s'adapte comme tous les autres.
Vous êtes gréviste ou pas, Sandrine, aujourd'hui?
C'est les autres qui le font.
Alors, aujourd'hui, non. J'ai travaillé parce que j'ai été prise de court. Je n'ai pas pu me poser ma journée de grève pour des conditions personnelles. Mais il faut savoir que je peux vous dire que les gens se sont adaptés à vivre avec la grève parce qu'aujourd'hui, j'ai travaillé et ça a été plus souple qu'une journée normale. C'est que les gens ont pris leur commodité. Il y en a qui font du télétravail, il y en a qui ont posé leur journée puisque ça arrange.
La grève va plus être efficace, du coup.
C'est ce que je me dis. C'est pour ça que je vous dis, j'ai un avis partagé. Parce qu'à la finale, on s'en rend compte aujourd'hui, c'est un exemple type, qu'on comprend pourquoi on nous écoute pas. Et que les dirigeants se disent de toute manière, oui, ils font cette journée, oui, ça va embêter quelques personnes, mais à la finale, les gens s'adaptent.
Exactement. Et donc, après, les syndicats n'auront plus de poids. Et ça, c'est évident, parce qu'avant, ils avaient un poids, et maintenant, ils n'en ont plus. Parce que tout le monde s'en fout.
Je me suis rendu compte en travaillant aujourd'hui, parce que moi, habituellement, je suis les mouvements, parce que, au bout de. Moi, vous savez, il me reste quoi, 10 ans à faire en étant en éthique régie, parce que c'est 27 ans de cotisation pour être au minima pour ma retraite. Ce qui m'embête, c'est pour les jeunes qui arrivent. Moi, je comprends que les jeunes, ils sont venus, ils ont démissionné. Vous savez comment, quand ils ont commencé leur premier salaire, moi, j'ai eu des jeunes que j'ai formés. Ils étaient à 1400 euros, il faut autant de travail que nous.
Non, mais c'est ce qu'on dit. Puis en plus, il y a les nouvelles conditions pour les nouveaux entrants. Mais merci beaucoup, en tout cas, Sandrine, d'avoir été avec nous, parce que votre témoignage était très intéressant. Sandrine, qui ne faisait pas grève. Donc, aujourd'hui, Jean-Philippe nous appelle de Paris. Bonjour, Jean-Philippe.
Bonjour Estelle et bonjour à l'équipe. Pardon, j'ai pas retenu tous les noms. Vous m'entendez?
C'est pas
bien
grave. Oui, très bien, Jean-Philippe. Parfait. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Philippe, vous avez été vous impacté par les grèves, parce que
alors,
vous êtes parisien?
Déjà, avant de répondre à votre question, Estelle, je vous connais pas. J'ai écouté l'émission à la race pendant ma pause, que je ne fais pas grève aujourd'hui.
Bah, c'est gentil d'avoir appelé.
Je suis scandalisé par vos propos.
Ah bon?
Que vous tenez redondants, les syndicats n'ont plus de poids, etc.
Bah moi.
Syndiqué ou pas, c'est votre problème. J'en sais rien, mais je sais pas si vous connaissez le monde syndical, le monde du travail notamment. Moi, je travaille dans des endroits où il y a des forts taux de collègues qui sont syndiqués, quelle que soit la couleur du syndicat.
C'est 10% de syndiqués en France.
Comment ?
C'est 10% de syndiqués parmi les salariés en France.
Peu importe, vous savez.
Ah bah, c'est 10%, bah.
C'est révélateur quand même.
Oui, mais on peut toujours dresser des murs de chiffres. En attendant, il y a d'autres combats, notamment les combats LGTB, où on a vu que les minorités, qui n'étaient pas la majorité, faisaient avancer les choses. Donc pour moi, c'est pas un argument. Deuxièmement, la première personne qui décrédibilise...
C'est vous qui décidez ce qui est un argument, alors.
...qui refuse de les recevoir ou qui ne les entend pas. Et maintenant, je vous écoute si vous avez des questions à me poser sur ma position d'aujourd'hui.
Jean-Philippe, on voulait juste savoir si vous aviez été impacté. Puis après, notre question,
bien
c'est...
Bien sûr que je suis impacté, bien sûr. Je vis à Paris et je travaille en banlieue, donc le RER, je le prends tous les jours, je prends la ligne A. Et effectivement, moi, c'est pas aujourd'hui, bon, je me suis organisé, je marche, machin et tout, mais moi, je suis pas impacté parce qu'il y a une grève. Je suis impacté au quotidien quand il n'y a pas grève, comme le disait l'interlocutrice précédente, parce qu'il y a des sous-effectifs qui font que même en partant très tôt de chez soi, on va attendre des RER. Je ne prends plus le bus à Paris parce que il y a une flotte de sous-effectifs qui fait que... C'est devenu impossible d'être à l'heure quand on prend le bus. Donc moi, pour être clair avec vous, c'est pas que des gens se mettent en grève qui m'impactent. C'est pourquoi ils se sont mis en grève. Il y a des raisons qu'elle a bien dites, donc je vais pas les redire, quoi.
Mais est-ce que la grève est la solution? Mais est-ce que la grève est la solution? Toute la question est là. Est-ce que la grève est la solution?
On a dit qu'on comprenait bien sûr ces revendications.
Je pense que ce n'est plus la solution avec L majuscule.
Mais Jean-Philippe, vous êtes d'accord avec Estelle? C'est une incompréhension.
J'ai pas fini. Vous êtes toujours. Ah ben voilà. Je pense que ça demeure un outil utile pour une visibilité, même si tout le monde ne va pas dans les rues. C'est un outil qui est utile. Maintenant, il reste à inventer effectivement d'autres formes.
Donc on est d'accord.
Qui obligeront le patronat et les ministres concernés, le gouvernement, à se pencher sur. Mais oui, bien sûr, ça demeure un outil légitime, la grève. Bien sûr.
Oui, on a commencé sur une mauvaise note, Jean-Philippe, et on termine sur une très belle note. Et je suis ravie. Oui. En fait, on est d'accord. Oui. Dès qu'on s'écoute.
Peut-être de remonter le taux de syndicalisme en France.
Mais bien sûr.
Qui est l'un des plus bas en Europe.
Bah oui,
le tableau devant moi, c'est factuel. Hein. On est juste devant l'Estonie, la Lituanie et la Hongrie, avec 8,8% de taux de syndicalisation en France. Public et fonction publique et privée. Tu veux quoi? Tu veux le Danemark, par exemple?
Non, l'Allemagne.
L'Allemagne, je l'ai pas l'Allemagne, mais j'ai l'Islande, 91%, la Suède, 64%, la Norvège, 49%, l'Autriche, 26% seulement, on est à 8,8.
Ouais. Alors, on vous a posé la question, en tout cas, faut-il apprendre à vivre avec les grèves? Et ça donne quoi, Rémi?
C'est très rare.
Attendez, Daniel, ça donne quoi? Faut-il apprendre à vivre avec les grèves?
Il y a déjà un indice, c'est très rare. 62. Alors c'est très rare.
C'est très rare.
50-50.
C'est très rare. 50-50.
Ça. Ah, le c'est très rare, c'est que ce soit comme ça.
Mais
à chaque fois que c'est comme ça, tu dis ça aussi.
Ah bah non.
Souvent ces dernières semaines de dire ça.
50-50.
Alors en tout cas, j'ai hâte d'entendre l'avis de Daniel et des autres, bien sûr, mais Daniel surtout. Sur l'ouverture d'un restaurant au sein de la prison des Baumettes à Marseille avec des détenus au service et en cuisine. Est-ce que vous seriez prêt à aller déjeuner dans une prison? On attend vos réactions, vos commentaires au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, Canal 23 avec Rémi Barré, Daniel Riolo, Anne-Sophie Saint-Père et Benjamin Muller avec vous bien sûr au 32-16 pour réagir au prochain sujet de l'émission. Et c'est l'ouverture du jour, celle dans 15 jours, d'un nouveau resto situé au sein de la prison des Baumettes à Marseille. Des détenus y seront employés en cuisine et au service et tout le monde pourrait y déjeuner, Rémi, mais sous certaines conditions.
Ouais, et ça ressemblera à quoi? Un restaurant comme un autre ou presque, 44 places à l'intérieur dans l'enceinte de la prison des Baumettes, donc avec une quarantaine de détenus qui occupent des postes dans la plonge, au service ou encore en cuisine. L'encadrement est assuré par 3 professionnels de la restauration, dont la chef Sandrine Solier. Une conseillère en insertion professionnelle est également présente, car le but est bien évidemment de permettre à ces détenus de se former un métier. Au menu, des plats issus de la cuisine méditerranéenne à partir de produits frais, beaucoup de poissons, dit-on, filet de Saint-Pierre ou encore carpaccio de Saint-Jacques et grenade. Le forfait Entrée, plat, dessert est à 35 euros. Service du lundi au vendredi. Le restaurant, bien sûr, est accessible dans des conditions particulières. On est en prison. N'est accessible donc qu'aux personnes majeures en respectant certaines conditions. Les clients doivent notamment présenter leur pièce d'identité et leur casier judiciaire. Ils ont évidemment l'obligation de suivre des règles établies dans l'enceinte. Et les téléphones portables sont laissés à l'accueil pour des raisons de sécurité. L'alcool est proscrit.
Oui, donc c'est effectivement des conditions particulières. Seriez-vous prêt à aller déjeuner en prison ? Je commence avec vous, Daniel Riolo.
Bah, l'idée pour favoriser la réinsertion, le serveur, ce soit les commis, les serveurs, soient des détenus en fin de peine. C'est pas Nordal Le Landais qui va nous servir à manger, j'imagine. Non, c'est pas l'idée.
C'est pas l'idée, non.
C'est pas l'idée.
Michel Fourniret non plus, je viens pas faire la plonge. C'est, oui.
Non, lui, on mettra la plonge.
Hein ? Ce que je viens de dire.
Ah, pardon. Tu vois, quelle connexion, quand même. Donc, l'idée est plutôt séduisante, quoi. Parce qu'en plus, on pourrait envisager qu'en sortant, puisqu'ils sont en fin de peine, eh bien, justement, ils aillent chercher du travail dans des secteurs où justement, il y a une offre et il y a une pénurie. Donc, dit comme ça, je vois que du positif. Mais la seule limite, c'est que je me dis, le cadre, quoi. Qui va avoir, une fois que tu y vas, fois, parce que tu as envie de participer à ce qui semble être un beau projet.
Bah oui.
Tu dis une fois, allez, on va y aller, on va voir comment c'est, la curiosité. Et après, tu vois, c'est quand même à l'intérieur d'une prison. Généralement, quand tu vas dans un resto, tu te fais attention au cadre, c'est à côté de ça, c'est à côté. Là, une fois que tu seras allé une fois, qu'est-ce qui va te pousser à y retourner?
Ouais, mais il y a plein de restos où tu retournes jamais. Tu trouves ça bien,
Non, mais ok, en fait, je ne vois pas de limite ou de critique à apporter à un projet qui a l'air, même presque fascinant, parce que on n'y avait pas pensé. Mais j'ai du mal à voir comment ça va marcher. Est-ce que les gens vont y aller, vont y retourner? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est plein de bons sentiments. De là à ce que ça motive des gens d'aller manger dans une prison. Alors évidemment, ils mangent pas avec des, il y a pas des barreaux, c'est pas des tables pourries. J'ai vu le cadre, j'ai vu le resto, c'est plutôt bien fait, c'est joli, table en bois clair, et il est plutôt bien foutu. Oui. Mais de là à dire tiens, je vais aller au Baumette, je vais me garer devant, je vais rentrer pour aller bouffer au resto.
Ah ouais.
En fait, je pense que au-delà d'aller manger, tu dois également être motivé par la démarche. Tiens, peut-être que ça va aider. Enfin, il y a une démarche sociale.
Après, tu peux aussi avoir un truc un peu bobo, un peu hype, tu vois. On allait déjeuner au Baumette.
Donc, avec une démarche un peu sociale, ça va permettre d'aider à la réinsertion des gars qui sont en fin de peine, quoi.
Pourquoi pas?
Je suis prêt à y aller. Puis 33 euros pour du Saint-Pierre, en plus, c'est pas très cher.
Le prix, c'est 35
euros. Entrée plat dessert. Il n'y a pas d'alcool. C'est le truc qui fait que j'y retournerai pas non plus une fois par semaine.
Enfin, si tout le monde est bourré en prison, évidemment, ça pose quand même souci.
J'ai pas dit que c'était pas normal. J'ai dit juste que moi, à titre personnel.
Il n'y a pas de drogue non plus.
Oui, c'est mieux.
Et j'imagine que ce sont des détenus, qu'ils ne sont pas des anciens assassins ou des trucs comme ça.
Oui, j'imagine que c'est prévu sur le volet. Enfin, tu vas manger avec Jean-Claude Roman.
On a quand même eu l'expérience du karting de Koh Lantès à Fresnes.
Alors, justement, c'est pas pareil.
Oui, parce qu'à l'intérieur, on a quand même trouvé trace de type. Au début, on nous a dit mais c'est des.
Notamment d'une personne condamnée pour viol.
Voilà. Au début, c'était des détenus, on va dire light, je sais pas trop comment dire. Oui. Vous m'aurez compris. Et puis finalement, comme dit Rémi, après la merde, il y avait un violeur dans l'affaire. Et là, c'est pareil. En revanche, si après en cuisine, je sais que j'ai été servi par un mec qui a buté un enfant, ça va m'emmerder. Mais a priori, c'est pas du tout ça.
C'est bien.
Ça pourrait couper l'appétit. Dans la Marseillaise, il y a un jeune détenu qui a 19 ans et qui dit je vais apprendre à faire attention au langage, à ma tenue, à être classe. En fait, c'est génial. On sait pas ce qu'il a fait. Mais ce gars, effectivement, parce que l'idée de la réinsertion, c'est bien. Mais quand on est que entre prisonniers, j'imagine qu'on développe une manière de parler, de se comporter, etc., qui est un peu violente, forcément, etc. Et en sortant, c'est pas plus mal d'être confronté à l'autre vie. Moi, j'ai visité une fois, il y a quelques années, la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, où j'ai passé une journée entière dans un cadre journalistique. Et franchement, on en apprend beaucoup, je trouve. Bon, évidemment, sur les prisons, mais sur la vie au sens large. Moi, vous l'avez fait aussi, Espagne. Ouais. Et c'est un truc de fou, parce que on était amené à pouvoir discuter, donc, avec des détenus. D'abord, des détenus hommes. Et ensuite, avec des détenus femmes. Et moi, ce qui m'avait particulièrement marqué, c'est que j'avais visité le quartier des cellules femmes. D'ailleurs, j'avais dit, je peux visiter votre chambre. Et elle m'avait répondu, non, c'est pas une chambre, monsieur. C'est une cellule. Je me suis dit, je suis vraiment un bobo dans un milieu qui m'appartient pas. Et donc, c'était une dame qui devait avoir 65 ans. Une petite mamie qui me fait venir, qui me dit, vous pouvez entrer, etc. Je m'assois sur sa chaise. Elle me sert un petit café, etc. On discute. Elle est adorable. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez fait, madame? Elle me dit, bah, écoutez, mon mari, ça fait 20 ans qu'il me violait. Un jour, j'ai pris son fusil, je lui ai mis une balle dans la tête. Ça m'a un peu refroidi. Mais du coup, j'ai discuté pendant une demi-heure avec elle. Et depuis cette histoire, je ne vois plus jamais les
Le café était bien?
Le café était très bien. Elle était très gentille. Mais toutes les affaires de féminicide, maintenant, je pense systématiquement à cette petite mamie. Oui. Je vous assure. Et donc, je me dis, l'idée d'être confrontée.
Ça ne te gênerait pas qu'elle soit en cuisine? Tu vois ce que je veux dire?
Au contraire, c'est même très bien. Je pense que c'est très bien d'être confrontée à des gens qui sont amenés à être en prison pour un peu mieux comprendre ce qui se passe et être un peu moins manichéen dans les débats qu'on peut tous avoir sur ces sujets de violence, par exemple.
Ouais, et puis pour tous ces détenus, ça permet de rencontrer des gens qui ne sont pas, effectivement, tu le disais, des détenus et d'être au contact, voilà, des gens qui sont hors de prison. Donc, il n'y a que du plus pour vous, Anne-Sophie Saint-Père?
Ah oui, c'est terrible, on va tous être d'accord, mais effectivement, la réinsertion, le fait d'avoir des chances de trouver un emploi à la sortie, c'est clé contre la récidive. Donc, c'est une excellente initiative. Et ensuite, sur qui va y aller? Moi, un menu gastro à 35 euros, je trouve ça très intéressant. Donc, c'est aussi.
Oui, c'est
on n'a pas dit que c'était gastro non plus.
Si, bah, la chef, elle bossait avec Passeda.
Oui, le Carpaccio Saint-Jacques, etc. Non, ça peut donner envie. Donc oui, il y a un intérêt à y aller spécifiquement. J'imagine qu'ils ont travaillé sur le cadre, effectivement, qu'il n'y a pas de barreau aux fenêtres.
Oui, mais même si ça participerait un peu au truc.
Mais c'est intéressant parce qu'il y a eu le karting, là, c'était quoi? C'était il y a deux mois à peu près, le débat?
C'était cet été.
Et ouais. En fait, ça reste quand même la même logique.
Non, ils bossent, là, alors, ça n'a rien à voir.
Mais si, c'est des logiques.
Ça n'a rien à voir, c'était une logique de loisir qui pouvait perturber si on savait que c'était des délinquants lourds. Là, c'est une démarche où tu leur permets d'envisager à leur sortie de trouver un travail. C'est comme si tu leur donnais une formation.
Mais les loisirs en prison,
la démarche, c'est beaucoup plus intéressant.
Quand on fait jouer des tournois de basket en prison, ce qui choque personne parce qu'on l'a tous dans l'imaginaire.
Oui, mais ça va pas devenir un basketteur pro, le mec derrière.
Non, mais c'est pas l'idée, le loisir. Je veux dire, le loisir, ils peuvent jouer aux échecs, ils peuvent lire, etc. Donc, ils font du kart. C'était une polémique pour plein de raisons, etc. Mais c'est bien aussi de voir que ce genre de choses de réinsertion sont faites en prison où là, effectivement, tant mieux.
C'est toujours le même problème avec les prisonniers quand on débat et l'autre fois,
un buzz
totalement inutile sur une phrase que j'avais prononcée. C'est ça dépend qui. Ouais. Ça dépend de qui on parle. Moi, savoir que Abdeslam s'est marié en prison, ça me choque. C'est pas normal. Je veux pas que quelque chose qui ressemble à du bonheur le touche. J'ai pas envie de ça. En revanche, le petit délinquant qui a fait une connerie, qui paye normalement sa dette à la société, mais qui derrière peut se réinsérer en étant serveur là, trouvera du taf dehors, à qui on donne une deuxième chance. Évidemment, je pense que les Français sont de cet avis. Le problème, c'est que souvent on dit le prisonnier. C'est comme dans l'histoire du karting. Okay. C'est qui était là tant que c'était un. Ok, dès qu'on a su qu'il y avait un violeur, ça a fait un scandale d'État. Okay. C'est ça en fait, il faut être clair là-dessus.
Je voudrais qu'on prenne Julien, parce que c'est très intéressant. Julien nous appelle de Poissy dans les Yvelines et Julien en fait va régulièrement manger au réfectoire de la prison centrale de Poissy. Bonjour Julien.
Bonjour à tous.
Et donc vous connaissez ce principe de restaurant dans la prison en fait?
Oui, depuis tout le temps, depuis 2014, je vais régulièrement les midis à la centrale, au réfectoire de la centrale de Poissy, qui est accessible aux agents de la ville. Alors moi, je pense d'abord c'est dédié aux gens qui y travaillent, mais nous, ça nous est ouvert. Donc c'est un réfectoire. Moi, j'y suis content. C'est vrai que la première fois, quand on y rentre, moi, j'y suis avec des collègues qui étaient habitués, mais on se demande quand même. Enfin, c'est quand même impressionnant. On passe dans le sas de détection de métaux, on rentre quand même dans une prison.
Ouais.
Mais bon, on rentre pas dans la zone de détention à proprement dit, quand même. Il y a d'autres sas pour accéder à la zone de détention. Mais enfin, donc le réfectoire est là. C'est des détenus, si j'ai bien compris, qui sont en fin de peine. Alors c'est une centrale, hein, c'est quand même pour des peines lourdes.
Ouais. Oui, bien sûr.
Qui sont en fin de peine, qui donc pour moi, c'est l'idée, c'est de les
permettre de se réinsérer.
Ouais, de se réinsérer, de retravailler, etc. Ça s'est toujours très bien passé. Hein. Je pense que les détenus qui sont là sont contents de l'être. Ils font bien le job. Ils sont en cuisine à la plonge, en gros. Ils sont encadrés par des agents de la, enfin, de la prison, détention, quoi, de la détention qui les encadrent. En gros, tout s'est toujours très bien passé. Les gars sont sympas. On commence à se connaître. Alors, il y a un peu de turnover. Mais on commence à se connaître et à discuter un petit peu. Bon, voilà. Donc, moi, j'ai toujours trouvé ça très bien. En plus, pour nous, c'est bien parce que c'est bon, c'est pas cher et puis l'esprit est sympa. Et voilà. Donc, moi, j'ai toujours. Alors.
Mais est-ce que vous faites une différence quand même? Est-ce que vous faites une différence, Julien? C'est-à-dire qu'au début, vous dites, vous étiez un peu impressionné quand vous y étiez allé la première fois. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites la différence entre ce restaurant-là et un restaurant classique? C'est-à-dire que, est-ce que par exemple, quand un serveur vous amène un plat, est-ce que vous vous dites à chaque fois, tiens, je me demande ce qu'il a fait? Ou est-ce que, bah, finalement, pour vous, c'est quelqu'un comme tout le monde, quoi, on va dire?
Alors, il m'amène pas de plat, c'est pas servi à la table, c'est vraiment un réfectoire. Mais enfin, quand je les croise, en gros, je me suis posé ces questions-là forcément au début. on est un petit peu, enfin, on a envie de savoir pourquoi ce gars-là est là, etc. Mmh. Alors, en plus, parfois, ça tourne un peu les rumeurs. Enfin, moi, ça m'est passé maintenant quand je le croise.
C'est ça.
Plus
vous êtes habitué.
Ces questions-là. Pour moi, il y a une différence. Hein. C'est pas du loisir. Là, les gars, ils apprennent à bosser. C'est pas du karting. Ils sont en train de bosser, de se remettre à
tout
bosser,
à fait.
Etc.
Bah merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage, Julien. Et c'est très intéressant parce qu'on a Jean-Paul qui nous appelle de Gardanne et qui est pâtissier. Bonjour Jean-Paul.
Et bonjour à tout le monde.
Et vous Jean-Paul, vous avez été formateur pâtissier en prison,
oui,
justement.
Oui, tout à fait. J'étais formateur en prison pendant 5 ans. Mm-hmm. Ça s'est super bien passé. J'ai formé beaucoup d'élèves travaillent. Et en fait, on inverse un petit peu la roue, quoi. C'est-à-dire que les élèves, les détenus, ils travaillent. Donc, quand ils sortent, habituellement, ils n'ont pas de travail. 80%, ils n'ont pas de formation. Mm-hmm. Du coup, quand ils sortent, ils n'ont pas de boulot, pas d'argent, pas de trucs. Dès qu'on leur propose une connerie, ils la font et ils replongent. Ça, c'est le problème de nos prisons. C'est-à-dire que les gens, ils rentrent, ils sortent et ils re-rentrent.
C'est
du
ça.
Coup, on a toujours beaucoup de monde en prison.
Mais vous, par rapport à ceux que vous avez formés, est-ce qu'ils sont devenus pâtissiers après en sortant
oui,
de prison?
Tout à fait, ils sont devenus pâtissiers. Il y en a qui sont chefs pâtissiers en Tunisie dans les centres de vacances. Et j'en croise, alors je suis entre Aix et Marseille.
Oui.
Quand je rentre dans les pâtisseries, je fais mes élèves. Maintenant, je suis au Greta, je suis formateur au Greta, mm-hmm. et donc je vais voir mes élèves qui sont en formation. Et des fois, c'est mes anciens élèves qui forment mes stagiaires.
Ah d'accord, ceux qui étaient en prison qui forment vos stagiaires. C'est un bel exemple de réinsertion.
Oui,
donc,
oui. Du coup, la réinsertion, elle est. Il faut absolument former les gens. Je connais très bien le projet des Baumettes parce que c'est des amis qui ont aidé à faire ce projet-là.
D'accord.
Notamment qui ont fait le restaurant qui s'appelle La République à Marseille. Et qui est un restaurant, vous savez, c'est comme les cafés, c'est un restaurant de réinsertion aussi.
Ah oui, comme les cafés joyeux.
Comme les cafés suspendus. Oui. Vous avez 100 assiettes par jour. Et il y a plein d'assiettes qui sont pour des gens qui sont à Pôle emploi, machin.
D'accord.
Des gens qui sont âgés, etc.
C'est café solidaire, en fait. Mais vous, donc, vous êtes pour ce projet de resto au Baumettes, on est d'accord.
Je ne sais pas si vous avez vu le projet, mais le restaurant est super.
Ouais, c'est chouette, ouais.
Ils ont fait un truc qui est vraiment super. Il y a vraiment de bons chefs à l'intérieur. Il y a de grands chefs qui viennent, qui vont venir. Moi, je vais sans doute intervenir aussi sur de la pâtisserie, etc.
Ah bah parfait.
Je suis disciple escoffier et membre de Cour Méditerranée. Donc, on essaye un petit peu de sortir de la tête de l'eau. Tous ces gens qui n'ont pas d'emploi, qui sont en prison. La solution, elle est là. On est déjà, on a 60 balais, on a de l'expérience. Il faut vraiment que...
Et ce que vous nous dites, en tout cas, Jean-Paul, parce que là, pour le coup, on est un petit peu pressé, on est très en retard. Mais ce que vous nous dites, Jean-Paul, c'est qu'en tout cas ça peut marcher et que vous avez formé des pâtissiers en prison qui sont devenus pâtissiers en sortant de prison, donc ça peut marcher. Merci beaucoup Jean-Paul d'avoir été avec nous. On vous a posé la question en tout cas sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Est-ce que vous seriez prêt à aller déjeuner en prison?
Bon, ça n'emballe pas tout le monde, il faut être honnête. Non, c'est non à 80% de ceux qui sont
prononcés sur la raison. Alors là, c'est qu'on a mal expliqué, la question a été mal posée.
C'est pas grave.
Au vu des, je peux pas vous tous vous les dire, mais au vu des messages que je reçois sur Direct Studio, je crois pas que ça soit une erreur.
On en prend jamais les dents, quoi.
Ok, bon, bah écoutez, les gens ont le droit de ne pas être d'accord. Oui, bah, je fais juste un tout petit teaser là. Dans un instant, Anthony Morel qui nous parlera de la grève. Bah oui, jeudi noir dans les transports, mais il y a des applis pour faire face à la grève. Il nous dira tout ça sur RMC dans un instant. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi 50, vous êtes sur RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et c'est le moment d'accueillir Anthony Morel.
RMC Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et Anthony, on va parler des grèves aujourd'hui. Déjà, merci d'être avec nous, hein, parce que vous prenez les transports en commun. Et Anthony, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que grâce aux innovations, eh bien, on peut faire face aux grèves.
Oui, grâce à nos smartphones, hein, notamment. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'applications qui nous permettent de mieux affronter, on va dire, les situations comme celle-ci. Alors, je vais vous en donner quelques-unes. On va commencer par la base, c'est-à-dire les applications qui vous expliquent de manière optimale comment se déplacer d'un point A à un point B. Oui. Il y en a plein. Il y en a une, je pense que beaucoup la connaissent, mais je sais que vous l'avez découverte il n'y a pas longtemps. Donc je la donne parce que je pense qu'il y a encore des gens qui ne la connaissent pas. C'est CityMapper, qui est une application formidable qu'il a autour de la table.
Quoi
CityMapper, il faut la télécharger. C'est génial. C'est une sorte de Google Maps améliorée. C'est vraiment extraordinaire. Oui. Donc tu entres ta destination et on va te proposer, c'est un comparateur multimodal, c'est comme ça qu'on appelle ça. On va te proposer tous les moyens de de transport voilà. possible et imaginable, le prix que ça va te coûter.
Bon, on l'a déjà, ça, dans le téléphone, voyons.
Non, pas du tout, non.
Google Maps, je te dis, c'est mieux fait que Google Maps. Tu as les prix qui sont affichés et ça va te donner aussi toutes les perturbations en temps réel.
Non, mais tu sais les trucs, là, qu'il y a dans le téléphone.
Non, c'est mieux, je pense.
L'appli de base du téléphone, elle marche bien, elle me donne transport, voiture, vélo.
Ça fonctionne pas mal, mais là, ça va encore mieux. Là, t'as les trottinettes, t'as les scooters, t'as l'autopartage.
C'est moderne, Estelle, toi, tu tombes dedans.
Mais non, je t'assure.
C'est pas moderne, ça a 10 ans.
C'est vraiment une appli que je pense beaucoup connaissent déjà. Mais vraiment, c'est pas mal. Enfin, testez-la et puis vous ferez une idée. Il y a des alternatives. Il y a aussi Moovit, Transit, il y en a quelques-unes. Alors, pour le train, une appli très sympa aussi.
Transit, c'est pour se déplacer.
Oui, alors c'est ça.
C'est pour que ça aille plus vite.
Il y a deux applis qui ont le même nom, alors vous trompez pas. Parce que voilà. Après, c'est deux salles de l'ambiance. Une autre appli très pratique s'appelle Rails, donc comme un rail, mais avec un Z à la fin. Alors, ça, c'est pour quand on prend le train. C'est un peu comme Waze, mais pour le rail. C'est-à-dire qu'en gros, c'est mis à jour.
C'est très, très bien.
Mais non, c'est
très, très bien parce que la SNCF, ils sont pas tout à fait à jour au niveau d'infotrafic.
Exactement ça.
Mais à quoi ça sert qu'il y en ait autant au final?
Bah, là, pour le coup, c'est un truc différent. Rails, tu vois, c'est vraiment pour le train. Et tu vas avoir. Bah, ça va te dire.
Il y a un bouton sur la voie.
Bah, par exemple, ouais, les perturbations, elles sont mises à jour en temps réel par les utilisateurs. Tu sais, c'est comme Waze, ça fonctionne très bien. Et donc, tu as une. Voilà, c'est un truc collaboratif.
Oui, mais après, si on a trop, on ne sait plus à quel se référer. Moi, ça m'est déjà arrivé de m'embrouiller avec un taxi parce que moi, j'avais mon appli. Je disais, par là, c'est 25 minutes. Et puis lui, il fout Waze. Ah, bah là, c'est 35. Ah, oui, mais là, tu t'es trompé. Moi, la mienne, elle m'aurait dit de passer par là.
Tu prends CityMapper et Rails et t'es à peu près bon. Il n'y a pas de souci. Mais t'as raison, il n'y a pas besoin d'avoir une pléthore d'applications non plus. Mais voilà, ces deux-là, elles sont quand même pas mal. Voilà.
Alors, le grand classique en temps de grève, en tout cas, ce sont les applications de covoiturage. Et là encore, il y a de l'innovation.
Oui, alors tout le monde connaît Blablacar, évidemment, mais il y en a plein d'autres. Et surtout, certaines se sont spécialisées dans les trajets domicile-travail. Ça peut être l'occasion de les tester. On peut citer Caros, on peut citer Klaxit. Et un autre système très malin, moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ecov, E-C-O-V, qui s'est installé dans plein de villes différentes. En fait, ils ont créé des lignes de covoiturage, comme il y a des lignes de bus. C'est-à-dire que là, on a un trajet qui est précis, le long d'un. Avec des arrêts, un trajet balisé, si vous voulez. Donc vous arrivez à un arrêt, vous ouvrez l'application, les automobilistes aux alentours vont être prévenus et ils vont venir vous chercher. Donc ça, faut attendre 5, 7, 10 minutes en moyenne. Et donc vous allez pouvoir aller d'un point A à un point B, notamment dans les zones peu denses. Ça couvre les zones peu denses. Et en fait, il y a une forme de régularité comme c'est le long d'un trajet fixe. En fait, c'est
il y a des conducteurs comme des conducteurs de bus qui sont des conducteurs de voitures.
Ce sont des conducteurs comme
leur
vous
métier,
et moi.
C'est
en fait,
de faire ce trajet.
C'est pas leur métier. C'est simplement c'est sur leur chemin. Et en fait, c'est sur un trajet
et
très particulier.
Et comment on sait qu'ils vont être là à une heure précise?
Eh ben normalement, comme il y en a pas mal dans la zone, il y en a bien un qui va finir par accepter. Voilà, normalement, ça fonctionne assez bien. Alors ça fonctionne dans 55 villes différentes.
Ah oui.
Testez, vous allez voir. C'est plutôt pas mal. Donc je vous redonne le nom, c'est Ecov, E-C-O-V. Et ensuite, comme il faut pouvoir se garer aussi, surtout les jours comme aujourd'hui, une petite application, je crois que je l'avais déjà évoquée, mais elle est vraiment formidable, elle s'appelle Zen Park.
Oui.
Et Zen Park, c'est vraiment bien parce que ça vous donne accès à des parkings auxquels vous n'auriez pas accès en temps normal. En fait, ils ont signé des partenariats avec des hôtels, avec des propriétés privées, avec des supermarchés. Et donc tous les parkings sur lesquels vous n'avez pas le droit de vous garer en temps normal, eh bien là, vous allez y avoir accès. On vous géolocalise, on vous donne le plus proche. Et après, il reste plus qu'à payer parce qu'il faut quand même payer à un moment évidemment.
Et ça coûte plus cher qu'un parking normal.
Non, c'est à peu près pareil. C'est
là,
à peu
ça
près pareil.
Ouais,
c'est
pas mal.
Zen Park. Zen Park.
Finalement, j'ai trouvé une appli qui m'intéresse.
Bah, c'est pas mal déjà, sur 5.
Et puis pour ceux qui auraient la chance de réussir à se faufiler dans une rame de métro, vous avez aussi, Anthony, une application très pratique pour gagner du temps.
Absolument. Alors d'ailleurs, comme toutes ces applications, c'est pas seulement pour aujourd'hui avec la grève, ça peut servir tous les jours. Et elle s'appelle Par ici la sortie du métro. Et c'est très malin parce que. Ouais, c'est alors vous tapez par ici la sortie et ça va vous allez la trouver tout seul.
Oui.
Et en fait cette application elle va vous dire non seulement la rame qu'il faut que vous preniez pour aller d'un point A à un point B, mais surtout l'endroit précis sur du quai auquel il faut vous mettre pour pouvoir descendre au bon endroit.
Il y a ça sur l'appli RATP, hein, si je puis me.
Alors ils l'ont très bien. Bah je savais pas. Voilà, bah, c'est il y a une application aussi pour ça. Mais vous avez, si c'est dans la je
ils
ne savais
disent
pas
quelle sortie faut disent, descendre et s'il faut se mettre à l'avant ou à l'arrière du train.
Voilà, bah exactement. Bah je ne savais pas que c'est dans l'appli officielle.
Si vous avez
écoutez, très bien.
D'infos pour votre chronique, Anthony. Je suis là pour vous aider, il n'y a aucun problème.
Bah, merci beaucoup.
Bah, de rien. On parle de quoi demain, Anthony?
Demain, on va parler d'infidélité.
Oh, mais quel rapport avec,
on va voir en quoi les objets connectés peuvent parfois nous trahir quand on a une double.
Ça, c'est une base. Ça.
Ah, j'adore.
Ah ouais,
ces
mais alors, avec des histoires assez étonnantes. Et vous allez voir qu'on peut cacher bien des choses dans son smartphone.
Je ne veux pas le faire demain. Maintenant, là, c'est intéressant.
C'est mieux que les applis, vas-y.
Je vous laisse une heure demain, Anthony.
Ah, génial.
On fait une spéciale, Anthony Morel. Non, mais même midi 15h.
Allez, c'est parti.
Merci beaucoup, Anthony. Tous les jours, midi 50, dans Estelle, midi, dans un instant. On parle des allocations chômage qui vont être supprimées en cas de refus de deux CDI. Est-ce que pour vous c'est logique ou c'est injuste? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. À tout de suite sur RMC.